philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 3 mars 1994.
Sur les passions de Thomas d'Aquin, nous reprenons le cours du vivant. Qu'est-ce que c'est que les passions pour le philosophe? Ce serait intéressant alors, à ce moment-là, d'essayer de penser au plan philosophique. Philosophie du vivant, qu'est-ce que c'est que les passions? Saint Thomas, en théologien, s'appuie sur Aristote, sur... C'est très bien, et c'est très intéressant. Mais ce n'est pas suffisant de répéter Saint Thomas. Ce n'est pas philosophique. Et ça mène à des catastrophes. Forcément, ça ne peut pas être autrement. Vous voyez, c'est le traité des passions, avec le point de vue en éthique, la naissance seul nous faire comprendre la différence entre la psychologie et la philosophie. Si évidemment, en philosophie, on ne voit jamais ce que c'est que les passions, je comprends l'attrait de la psychologie. Mais la psychologie peut-elle nous parler des vertus? Posez la question. Si la psychologie ne peut pas parler des vertus, la psychologie est incapable de nous faire comprendre ce que c'est que l'éducation. L'éducation, on lutte contre les tigres, contre les boas, contre les hyènes qui sont autour de nous pour apprendre à voir l'émergence des vertus. On crée un climat familial pour l'émergence des vertus. Saint Jean, éducation, Saint Jean, vertu. Il faudrait le baromètre, avant et après, baromètre des vertus, et voir si avant, quel niveau, après. Vous voyez, c'est quand même très important, ça. C'est, on n'a pas le droit, si on dit Saint Jean éducation, de ne pas comprendre ce que c'est que l'éducation. Et on n'a pas le droit de faire une philosophie sans comprendre ce que c'est que l'éducation.
Le psychologue.
psychologue s'intéresse aux malades. Parce que vous n'allez chez le psychologue que si vous êtes malade. Je me souviens, un cher ami, je connais de vous, il n'arrivait jamais à se lever le matin. Jamais. Alors vous voyez, quand il devait être au bureau, il n'y était jamais. C'était un pilote qui, pendant la guerre, avait été un héros. Un pilote merveilleux. Et alors, évidemment, pendant la guerre, comme héros, de pilote, de avion, toutes les jeunes filles couraient après. Comme il était de bonne famille, alors toutes les jeunes filles couraient après. Et quand il n'était plus pilote, et qu'il est revenu dans la vie habituelle, ce bon pilote était incapable de se lever le matin. Il était aboulique. C'était pas seulement le lever, c'était tout. Il est devenu complètement aboulique. Je connaissais son épouse, c'est son épouse qui a dit, mon père, je vous en supplie, venez le voir, parce que quand même, il faut vous sauver. J'ai conduit chez un psychanalyste que je connaissais bien. Parce que c'est pas commode quand on est en face d'un aboulique. Et ce psychologue, alors, l'a guéri. C'est vrai, l'a guéri. Arriver à faire que l'imaginaire soit canalisé. Vous voyez, comme c'est curieux, parce qu'au fond, son art de pilote n'éduquait pas sa prudence. Là, on voit très bien. C'était un héros. Il avait fait des choses héroïques. C'est pas parce qu'on est un héros au combat qu'on va être un homme prudent. Non. Et la question des vertus, c'est la prudence. C'est pas l'art. L'art ne fait pas éduquer, ne fait pas pousser nos vertus. Il faut comprendre ça tout de suite quand on a affaire à des... C'est vrai, on a affaire à des gens qui, au point de vue art, peuvent être merveilleux et qui, au point de vue prudence, sont nuls. C'est pas commode. Hein. Et il y a l'inverse aussi. Hein. Il y a des gens extraordinairement prudents et qui sont d'une nullité absolue pour l'art. C'est même plus courant. C'était plus courant. Et peut-être que maintenant ça va être l'inverse. Parce qu'on pourrait dire qu'il y avait une éducation chrétienne qui maintenait un peu la prudence et les vertus. Et l'art, l'art de Saint-Sulpice n'éduque pas beaucoup au point de vue de l'art. Hein. Ça, les petites images que faisaient beaucoup de couvents carmélites, c'était pas très très éducateur. Alors, on leur avait envie de leur dire, écoutez, non, ne faites pas ça. C'est une mauvaise propagande. Que il y ait des religieuses contemplatives qui aient du talent et qui fassent quelque chose. Alors très bien, mais que c'est autrement, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors, qu'est-ce que c'est que la passion? Faites appel à votre expérience. Si vous n'avez aucune expérience passionnelle, c'est triste. C'est triste. Alors, vous voyez tout de suite, au point d'une expérience passionnelle, que la passion est de l'ordre sensible. Ça, c'est descriptif. Et vous pouvez, par exemple, prendre la description dans le De Ira de Sénèque. Sénèque n'est pas un grand philosophe, mais Sénèque est un stoïcien. Et le De Ira de Sénèque est abusant. Mais il faut voir les descriptions, parce que comme ils sont anti-passionnels, c'est intéressant de voir. comment le dire, Sénèque, nous-mêmes, dans nos passions, d'irascibles, ou des personnes qu'on a connues qui étaient particulièrement en colère. On a tous eu des exemples comme ça de pions. Parce que c'est propre des pions de se mettre en colère. Parce qu'ils sont devant une faune particulière qui a le don de les mettre en colère. Et alors, tout de suite, les surnoms de ces pions. Et on essaie de comprendre nous-mêmes, chacun d'entre nous, qu'est-ce que c'est que cette passion de l'irascible qui fait qu'à certains moments, on est en colère. Et puis la passion du concupiscible, on voit très bien qu'il y a deux aspects. Et tous les deux sont sensibles. Et on en a conscience. Alors la passion du concupiscible, par rapport au chocolat pendant le carême. Si on a pris la résolution de ne pas prendre de chocolat pendant le carême, alors la passion pendant ce temps-là pousse. Et on attend la fin du carême pour pouvoir reprendre du chocolat. Non pas que le Christ soit ressuscité, mais que le chocolat nous soit donné. Concupiscible et l'irascible, ça je crois qu'on peut facilement découvrir le concupiscible. Et comme le concupiscible est plus intelligible que l'irascible est plus intelligible que le concupiscible, on peut découvrir d'abord ce que c'est que l'irascible. Il est plus facile à décrire. L'irascible, c'est une passion. C'est la passion même noble en nous. Parce qu'elle est plus intelligible. Et c'est vraiment une connaissance affective à l'égard d'un mal ou à l'égard d'un bien. Il y a les deux constamment qui nous éveillent. Le bien nous éveille, comme le mal peut nous éveiller aussi. Et qui est un mal intolérable pour nous, qu'on veut supprimer. Vous voyez, c'est pour ça que l'irascible a quelque chose de plus intellectuel, parce que on se sert du mal, ou plus exactement, on supporte ce mal, on le supporte mal. Il est insupportable. Et on veut le supprimer. Et on utilise ses forces passionnelles pour le supprimer. C'est le propre de la colère. Et dans la colère, il y a donc le passage du mal au bien. Mais d'un bien sensible et d'un mal sensible. D'un mal qui risque de nous abattre. Parce qu'il est insupportable. On n'arrive plus à supporter. Quand on dit hein, dans l'écriture qu'il faut se supporter mutuellement, ça veut dire ne vous mettez pas en colère tout le temps à cause de votre voisin. Et supportez-le. Arrivez à faire que cette présence qui vous est insupportable, vous arriviez à la transformer non seulement en une présence supportable, mais en une croissance dans un amour. Alors, la passion du concupiscible. Réfléchissez sur le concupiscible. Le plus simple que vous pouvez avoir. La mousse au chocolat. Puisque ça a un don particulier d'éveiller le concupiscible. Et c'est à l'égard de la nourriture. À l'égard des gâteaux. Comme le chien ou le chat, parce qu'il y a un concupiscible du chien et du chat. avant de taper à la porte. Disant, monsieur le boulanger, un morceau de pain, si vous voulez bien. Qui sort du four tout de suite. Je vous le paye tout de suite. Mais c'est très curieux, ça. Cette expérience du concupiscible, qui implique une connaissance spéciale, c'est pas uniquement la sensation. Ce qui est bon pour moi, c'est la même chose pour la crème au chocolat. C'est pas l'intelligence qui fait connaître la crème au chocolat. Il y a des gens très intelligents qui n'aiment pas la crème au chocolat. Il leur manque quelque chose. Il leur manque ce type de connaissance particulière qu'on appelle cogitative. C'est très curieux, ça. Du bien sensible qui est bon pour moi. Et puis il y a une connaissance du mal sensible qui me fait fuir. Certaines odeurs éveillent ça, certaines au contraire un attrait. C'est la connaissance sensible de la cogitative ou de l'estimative. C'est la connaissance d'une réalité sensible, singulière, qui éveille en moi un appétit sensible, une passion, puisque la passion c'est l'appétit sensible, qui éveille en moi une passion de désir, ou de fuite, ou de colère. Bon, je vois ces trois différents, colère, désir. Je désire prendre un morceau de pain, j'ai faim. Et c'est normal, je peux raisonner à ce moment-là, dire, il est déjà quelle heure, j'ai marché toute la nuit. La pauvre bête qui est en moi a besoin de se nourrir. C'est tout à fait normal. Quand la crème au chocolat, ça c'est peut-être un peu plus... Je suis moins mendiant, n'est-ce pas ? C'est jour de fête, alors que jour de fête, il faut quand même fêter ça. La liturgie va jusque-là. On rend grâce au Seigneur que la crème au chocolat était très bonne. Vous voyez, tandis que quand on est pauvre, c'est le pain. Et c'est le pain du matin. Avec quelquefois aussi une odeur de chocolat, mais pas la même chose. Hein. Ça, c'est quand on entrait en Suisse qu'on se prenait le train de nuit, n'est-ce pas ? Alors, on entendait avant la douane. Parce que c'était toujours avant la douane. Parce que la douane venait après. Alors on entendait crier à toute force, café, chocolat. passer la journée. Et qu'on ne doit pas manger trop pour pouvoir travailler intellectuellement. Pour pouvoir prier. Autrement, on dormira. Ça, c'est la prudence qui vient régler ça. Donc le réalisme du bien sensible se ramène à notre vie végétative. Tandis que si cette vie végétative est dépassée, il y a l'avantage de pouvoir nourrir ma passion sans me nourrir biologiquement. Et je fais de petites séparations esthétiques. C'est là où l'esthétique intervient pour pouvoir dépasser la mesure de l'alimentation biologique et rester devant une passion qui se délecte à l'infini et qui déséquilibre. La passion déséquilibre alors que le biologique équilibre quand il est raisonnable. En elle-même, c'est une zone de ma vie humaine qui n'a pas de finalité. Parce que l'imagination intervient et que l'imagination me montre que c'est quelque chose qui peut durer indéfiniment. C'est la vie végétative qui limite mes passions. L'aspect politique qui vient limiter mon irascible. L'aspect politique au très grand sens. Hein. Ma petite politique interne. La prudence. Il ne faut pas me mettre trop en colère. Parce que quand je me mets trop en colère, je sais très bien qu'autour de moi, je ferai le vide. Parce que les gens ont peur d'en être en colère. Surtout si c'était très fort. Alors ils ont peur. Ils s'écartent. On sait quand on est en colère, on peut faire n'importe quoi. Il y a des exemples. Alors on a peur. Alors c'est la prudence qui vient limiter la colère. Parce que je veux quand même garder des amis. Alors vous voyez, les deux aspects qui mesurent la passion, la prudence et le point de vue vie végétative. Si je ne suis pas prudent, si je n'ai pas beaucoup de prudence, la vie végétative est là quand même pour me rappeler que je ne peux pas y aller trop, je serai malade. Alors je suis obligé de maîtriser ma soif de concupiscence. Parce que je tomberai malade. Et ça, je tomberai malade ou bien je serai alcoolique. Et là, je fais attention. C'est pas très vertueux. Si on limite par le point de vue de la vie végétative, on n'acquiert pas la vertu. La prudence, on acquiert la vertu. C'est toute la différence. Mais c'est notre vie végétative et c'est notre prudence qui vient limiter. La passion par elle-même, liée à l'aspect imaginatif, n'a pas de limite. Mais c'est un infini sensible, affectif, passionnel. manger de gâteau en gâteau sans jamais que ma vie végétative soit là pour l'arrêter, parce que c'est imaginatif. Je bois tout le temps sans m'enivrer. Et en m'enivrant imaginativement. Et dans l'ordre sexuel, c'est la même chose. C'est ces gens qui rêvent tout le temps. Et qui vivent leur vie de concupiscence dans l'ordre imaginatif. Ça, il faut voir ça philosophiquement, c'est très important. C'est un fou. C'est une zone que je porte qui n'a pas de finalité. L'imaginaire n'a pas de finalité et la passion nourrie de l'imaginaire n'a pas de finalité. Et je peux porter en moi là et qui me donne une fausse finalité, c'est d'être, de pouvoir se développer à l'infini. Puisque ça peut se développer à l'infini, ça me donne le semblant d'un absolu. C'est un faux absolu. Imaginatif. Il faut en prendre conscience, première chose, pour guérir de ça. Il faut en prendre conscience. Il faut savoir que c'est un domaine imaginatif que nous portons tous en nous et que nous pouvons très bien cultiver esthétiquement. C'est un point de vue esthétique qui supprime la mesure par le bas, qui supprime la mesure par le haut et qui me fait entrer dans une zone où je suis euphorique, imaginativement, où le bien sensible et la passion qui se porte sur ce bien sensible peut se développer. Et dès que je veux être vertueux, c'est-à-dire aimer spirituellement un ami, parce que cette zone que je développe en moi va irriter prodigieusement mon ami. Parce que, à cause de cette zone imaginative, je vais l'exploiter. J'exploite mon ami. Et quand l'ami s'en aperçoit, il comprend que ce n'est pas l'amitié. C'est uniquement une amitié utilitaire, une amitié de jouissance. Et si on a goûté à un autre amour, qui est l'amour spirituel, cet amour-là devient insupportable. L'amour imaginatif, romantique, de jouissance sexuelle, de jouissance de purement de nourriture et de boisson, devient insupportable parce qu'on n'atteint pas la personne et on ne touche pas la personne. Alors on ne veut pas. Donc, il faut bien saisir cette zone difficile à préciser, mais parce qu'elle est imaginative. Mais elle existe, et beaucoup d'êtres humains vivent de cela, et on nourrit cela. C'est une façon terrible, on nourrit l'imaginaire dans notre monde d'aujourd'hui. On le nourrit par le cinéma, on le nourrit par la télévision, on le nourrit par le téléphone. C'est invraisemblable, ça. On nourrit, on maintient les gens dans cette zone imaginative le plus qu'on peut. Par haine de la vertu. Il y a une haine contre la vertu. Par haine contre le véritable amour spirituel. Alors on nourrit cette zone-là. Et des quantités de personnes aujourd'hui vivent à ce niveau-là. Sans chercher du tout la vertu. Il y a même une opposition vis-à-vis de la vertu. Alors précisons dans ce domaine le concupiscible et l'irascible. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, si au point de vue connaissance, il vaut mieux connaître d'abord l'irascible puis le concupiscible, il faut comprendre aussi au point de vue philosophique que le concupiscible est fondamental. Il est premier. Pas premier quant à ma connaissance, mais premier quant à l'aspect cette zone. Et je peux aussi la développer pour elle-même, indépendamment de cette analyse. Alors je crois qu'il faut voir les deux pour comprendre un tout petit peu ce qu'est la passion dans la perspective freudienne, ce qu'est la passion dans la perspective, j'allais presque dire, de presque tous les psychologues. Alors il y a deux visions de la passion. Il y a la vision philosophique, proprement philosophique, où j'analyse. Je vois que la passion du concupiscible peut se développer en fonction de la présence ou de l'absence du bien sensible. Ça, je crois que c'est facile à saisir. C'est la même passion qu'à des états différents. Elle a deux états différents et complètement différents par le point de vue de la présence. La présence et l'absence du bien sensible font naître deux passions totalement différentes. Le désir est le point de vue de la jouissance. Mais ces deux passions, j'analyse, ces deux passions ont quelque chose de commun. L'amour passionnel. Je dis tout de suite l'amour passionnel. Va se transformer en désir par l'absence et va se transformer en jouissance par la présence. Donc, le désir comme la jouissance sont deux modalités d'amour différents du bien sensible. Parce que le bien sensible est présent ou absent. Et quand je prends l'amour, je suis devant ce qui unit les deux. Ne se réalise jamais parfaitement. L'amour est ou désir ou jouissance. C'est très important, ça. De voir que la ratio amoris est une abstraction du désir et de la jouissance. Ce qu'on vit existentiellement, c'est le désir et la jouissance. L'amour, on le pose, c'est le fruit de l'analyse. Alors, ça c'est intéressant à voir, parce que ce que je peux décrire immédiatement, ce que je peux décrire, c'est la jouissance. Le ronron du chat auprès du feu, c'est la jouissance. Il est heureux. La jouissance de quelqu'un qui est assis à une bonne table et seul. C'est une chose effrayante. Ça se voit de temps en temps.